On va ouvrir la parole de Dieu. Vous avez envie d'ouvrir la parole de Dieu? Ou ce que nous avons partagé est déjà suffisant? Les cantiques, est-ce que ça allait, les cantiques? Est-ce que le meneur de chant allait bien? Bon, ça va. Est-ce que c'était bien la Sainte Cène? Est-ce que c'est bien de prendre la Sainte Cène? Est-ce que c'est bien d'entendre la chorale? Ouais. Moi, je me suis régalé. Moi, j'ai suffisamment mangé et le culte va se terminer. Mais est-ce qu'on a besoin de la parole de Dieu? Oui, on a besoin de la parole de Dieu. Alors, lundi matin, je suis un petit peu, parce qu'il y a 12 heures de décalage horaire avec la Polynésie, et je suis un petit peu encore en décalage. Et lundi, je n'ai pas beaucoup dormi, puisqu'on est rentré dimanche soir, et je passais la tondeuse dans mon jardin. Écoutez, je vous le dis parce que c'est ce qui s'est passé. J'étais triste. J'étais triste par rapport à ce que j'avais vu. J'étais heureux d'avoir vu les frères, ça, on est toujours heureux de voir les frères. Mais j'étais triste par rapport à plein de situations que ce n'est pas la peine d'évoquer. Et là, derrière ma tondeuse, tout d'un coup, il y a un verset de l'Écriture qui s'est imposé à mon cœur. Et je savais que Dieu me parlait. Et ce texte, c'est dans 1 Samuel. Vous allez partager un peu ma semaine. Ça ne vous embête pas? Alors, dans 1 Samuel, au chapitre 15, les choses vont mal. Les choses vont très mal en Israël. Pourquoi? Parce que Dieu a rejeté le leader, c'est-à-dire le chef d'État, Saül, est rejeté et Samuel est dans une profonde tristesse parce qu'il sait très bien tout ce que ça représente. C'est comme, vous rappelez, quand le roi Ozias est mort, c'était pas marrant, les ennemis rôdent. Vous savez, quand les chefs ne vont pas bien, l'ennemi rôde. 1 Samuel, chapitre 15, Saül est rejeté, Saül est réprouvé. 1 Samuel, chapitre 15, verset 34. Samuel partit pour Rama et Saül monta dans sa maison à Gibéa de Saül. 1 Samuel 15, 34, maintenant 35. Samuel n'alla plus voir Saül jusqu'au jour de sa mort, car Samuel pleurait sur Saül parce que l'Éternel se repentait d'avoir établi Saül roi d'Israël. Donc Samuel pleurait par rapport à tout ce qui était en train de se passer. Chapitre 16, verset 1er. L'Éternel dit à Samuel: quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Je l'ai rejeté afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et va. On va revenir, garder le texte, on va y revenir. Dieu donc pose une question à Samuel. Quand t'arrêteras-tu de pleurer? Alors, vous allez être tous d'accord avec moi, il y a un temps pour rire. Est-ce qu'il y a un temps pour rire? Est-ce que vous aimez rire? Il y a un temps pour rire, ce n'est pas important. C'est pas important de rire, mais il y a un temps pour rire. On a le droit de se réjouir. Il y a un temps pour pleurer. Est-ce que vous le savez qu'il y a un temps pour pleurer? Je pense qu'on le sait tous, à peu près. Il y a un temps pour pleurer, et vous avez des textes dans la Bible où Dieu demande à quelqu'un, arrête de pleurer, et il y a même des textes où Dieu demande aux gens de pleurer. Bien sûr qu'on ne pleure pas sur commande. On ne va pas dire que quelqu'un pleure. Vas-y, pleure. C'est ridicule. Mais vous savez, j'ai entendu dernièrement un enregistrement où on demande aux enfants de pleurer. Les enfants, vous allez pleurer. Je vous assure que les pauvres enfants dans certaines de nos églises, on ne les aide pas. Mais Dieu peut nous demander de réfléchir, que votre rire se change en quoi? En deuil. Il est demandé plusieurs fois dans la Bible que votre rire se change en deuil. C'est écrit dans l'épître de Jacques, je crois que je l'ai marqué. Oui, soyez dans le deuil et dans les larmes. Lorsque les femmes pleuraient sur Jésus alors qu'il était en train de porter sa croix sur le chemin de Golgotha, Jésus leur a dit « Ne pleurez pas sur moi », alors qu'il y avait de quoi pleurer sur la souffrance de Jésus. Mais c'était la suite qui était importante. Ne pleurez pas sur moi, mais pleurez sur vous et sur vos enfants. Parce que ce que vous avez fait, ça va vous retomber dessus. Ils avaient négligé les choses de Dieu. Et vous savez comment le peuple de Jérusalem a été blessé par tout ce qui s'est passé par la suite. Donc Dieu peut nous demander de pleurer. Pourquoi? Parce que nous sommes dans le péché. Est-ce que c'est bien de pleurer quand on a le péché? Eh bien oui, c'est bien. C'est bien de se repentir et de dire, j'étais mal, j'ai commis un péché, eh bien, je demande pardon à Dieu, que l'on pleure ou que l'on ne pleure pas. Intérieurement, on peut vraiment, vraiment être amené à se repentir. Il y a un temps où on peut pleurer, c'est clair. Mais il y a des moments dans la vie où Dieu nous dit, arrête de pleurer. On le voit souvent lorsque les femmes pleuraient au tombeau de Jérusalem, le jour de la résurrection. L'ange, mais Jésus aussi a dit, ne pleure pas. Et moi, derrière ma tondeuse, j'étais triste. Je pleurais pas avec des larmes, mais franchement, j'étais triste par rapport à plein de trucs. Ça serait un peu long à vous raconter. Et vraiment, ce verset s'est imposé à mon cœur, mais arrête de pleurer, ça ne sert à rien. Et je crois vraiment, il y a un temps, si vous êtes dans le péché et que vous pleuriez, eh bien moi je ne vais pas vous arrêter de pleurer, parce que ça va vous amener à la repentance, comme je viens de vous le dire. Mais nous avons un Dieu qui sait tout, qui connaît tout, et qui sait ce qu'il doit faire. Et là, dans ce cas de figure, c'est clair qu'à Israël, ça va mal. Les ennemis rôdent et le peuple est en danger. Samuel ne pleure pas pour rien. C'est pas un gars qui est pétri de sensiblerie. Il est sensible à Dieu. J'ai déjà expliqué la différence entre la sensiblerie et la sensibilité. Il y a des gens qui pleurent pour rien, ça veut rien dire. Mais on peut pleurer pour quelque chose qui tient debout. Et Samuel, c'est quand même quelqu'un, Samuel. Dans le royaume de Dieu, c'est pas n'importe qui, même si tout le monde n'est pas n'importe qui. Il n'empêche que c'est quand même quelqu'un. Nous sommes dans des temps difficiles, vous le savez, je ne vous apprends rien. Les temps seront de plus en plus difficiles. Ne pensez pas que les Européennes, ça va changer quelque chose. Que les prochaines élections, ça serait peut-être bien d'avoir tel leader. Les choses ne feront qu'empirer. Vous le savez, c'est écrit, les temps seront de plus en plus difficiles. Ne vous leurrez pas, ne vous imaginez pas parce qu'on va faire un changement. Ça ne peut pas marcher. Tant que le monde ne voudra pas de Dieu, ça ne marchera pas. Ces temps d'apostasie, ces temps où l'iniquité augmente, etc., etc. Vous connaissez les textes, j'en ai suffisamment parlé. Il faut que ces choses arrivent. En plus, on le sait, Jésus l'a dit, il faut que ces choses arrivent. C'est écrit, ne vous alarmez pas, ces choses doivent arriver. C'est pour ça que le Seigneur dit, mais que votre cœur ne se trouble pas. Est-ce que ça vous arrive d'être troublé? Ben oui, il y a des choses, des fois, quand même, ça nous blesse, surtout quand ça touche nos enfants, quand ça touche notre famille, etc. Il y a des choses qui peuvent nous troubler. Mais les fondements peuvent être renversés. Vous connaissez le psaume 11, je vous encourage à le lire chez vous. Quand les fondements sont renversés, quand tout est renversé, comme c'est si bien dit, le juste, il doit avoir les yeux fixés sur le trône. Donc Samuel pleurait, et Samuel a été pris de panique. Est-ce que ça peut arriver à un homme de Dieu de paniquer? Est-ce que ça, oui, quand vous voyez Samuel, ben, il n'y a pas que Samuel. Mais cet homme, c'est quelqu'un. Cet homme, à un moment donné, a été perplexe. Il s'est demandé, mais qu'est-ce qui allait arriver? Le roi était disqualifié, donc il fallait qu'il se passe quelque chose. C'est à ce moment-là que Dieu lui a parlé. Est-ce que nous voulons vraiment que Dieu nous parle? Parce que ça... C'est quelque chose, ça. Parce qu'il y a des gens qui parlent moi, Dieu me parle pas, mais ils prennent même pas le temps de l'écouter. C'est pas sérieux cette affaire. C'est pathétique. De voir des gens qui disent Seigneur parle-moi, ils vont même pas prendre une petite demi-heure pour se tenir en silence devant la parole de Dieu. Le Seigneur pourrait nous dire des choses sévères si son cœur était pas rempli de miséricorde. Mais Samuel à ce moment-là où il pleurait nous enseigne une chose, c'est que nous ne réalisons pas tout. Nous ne comprenons pas tout. On a chanté des cantiques qui nous rappellent que Dieu a créé les étoiles, l'infiniment grand. Si vous avez quelques connaissances, c'est vrai, en astronomie, vous voyez des choses extraordinaires. C'est extraordinaire la précision dans la grandeur de Dieu, dans l'infiniment grand, dans l'infiniment petit. Mais c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Et n'oublions pas que ce Dieu qui a tout créé dans l'infiniment grand et dans l'infiniment petit, il a pensé à tout. Est-ce que vous le savez que Dieu a pensé à tout? Tout. C'est sûr qu'il y avait de quoi pleurer. Et pourtant, le Seigneur va intervenir et dire à Samuel, arrête de pleurer, j'ai pensé au lendemain, j'ai pensé à ce qu'il fallait. D'ailleurs, vous l'avez avec moi, hein? Quand il dit, arrête de pleurer, qu'est-ce qu'il ajoute? Remplis ta corne d'huile et va. « Je t'enverrai chez Isaïe, Bethléemite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire avoir pour roi. » Dieu a pensé à tout. Et je voudrais ce matin que nous comprenions tous bien que même si les rois sont disqualifiés, même si un homme de Dieu peut pleurer, ce qui peut arriver, ne nous offusquons pas, laissez-moi vous dire que Dieu règne et qu'il a déjà tout préparé. Et il sait ce qu'il va faire et il sait ce qu'il doit faire. Nous, on est là, on est dans l'ignorance. Bien sûr qu'on ne sait pas ce que Dieu va faire. Vous savez ce que Dieu va faire en 2014? Est-ce que vous savez ce que Dieu va faire pour l'Église? Est-ce que quelqu'un peut me dire, voilà, moi je sais ce que Dieu va faire pour l'Assemblée? Personne, même moi le premier. Mais Dieu, il sait. Dieu, il sait ce qu'il va faire dans le royaume de Dieu, dans ce pays ou ailleurs. Nous, on voudrait que Dieu nous explique toutes choses. Ah, si Dieu m'expliquait tout. Ah, si j'avais toutes les explications, combien je serais fort. C'est ça que vous pensez, si Dieu m'expliquait tout, comment ça va se passer demain, comment le royaume de Dieu ça va marcher après-demain, comment Dieu va s'occuper de la Polynésie dans quelques mois, comment Dieu va s'occuper du royaume de Dieu en France. Si je savais, si Dieu m'expliquait, je serais fort. Est-ce que vous croyez que c'est comme ça? C'est ça la foi? Est-ce que c'est ça la foi? Non, c'est la foi, c'est pas ça. La foi compte sur Dieu, quoi que ce soit qui se passe. Que Dieu nous parle ou que Dieu ne nous parle pas, vous comptez sur la grâce de Dieu. Les hommes doivent contempler sa face. C'est ce qu'enseigne le psaume 11 et c'est ce que nous comprenons dans cette histoire où Samuel pleure. Mais Dieu lui ne défaille jamais. Samuel pouvait défaillir, Dieu lui, il ne défaille jamais. Est-ce que vous entendez, mes frères et sœurs? Je ne sais pas ce que vous êtes en train de vivre. Peut-être que vous êtes en train de vivre des choses difficiles. Est-ce que ça peut arriver de vivre des choses difficiles? Est-ce que ça peut arriver d'être dans le deuil? Vous savez, il y a quelque temps de ça, j'étais dans une église et il y avait un jeune qui menait la louange. Franchement, il était là avec sa guitare, il menait la louange. Vous savez, comme les disques jockeys, là. Vous savez, comme les gars qui animent la télévision, là. J'espère que vous êtes en forme ce matin pour louer le Seigneur. Cling, cling, cling. Non, ne riez pas, vous allez comprendre. Et j'espère que vous êtes en forme pour louer le Seigneur, parce que pour louer le Seigneur, il faut être en forme. Enfin, tout un truc. Et bon, quand j'ai pris la parole pour prêcher, j'ai dit, écoutez, jeune homme, parce que bon, je n'avais pas le temps après, donc je lui ai dit devant tout le monde. J'ai dit, écoutez, jeune homme, je pense qu'on peut venir dans l'église et on peut ne pas être en forme. On n'est pas obligé d'être en forme pour venir à l'église. On peut être très fatigué pour venir à l'église, oui ou non? On peut être dans le deuil, on n'a pas envie de... Vous voyez combien la télévision et le monde rentrent dans l'église? Alors ça fait super bien, j'espère que vous êtes en forme, mais moi je suis désolé. Mais peut-être que quelqu'un est dans le deuil ce matin, vous êtes fatigué, vous avez passé une mauvaise semaine, vous n'êtes pas en forme, mais Dieu veut vous bénir. Et ce n'est pas parce que vous êtes fatigué que vous ne pouvez pas louer Dieu. Ça peut arriver de ne pas avoir envie de prier, de ne pas avoir envie de louer. Écoutez-moi, ne vous inquiétez pas. Le Seigneur, il vous aime et il voit les efforts que vous avez faits pour venir dans sa maison. Ce sont des choses, voyez, qui vous indiquent en même temps combien beaucoup de frères ne sont pas formés dans les églises. Voilà, on attaque le sujet de la formation, une fois de plus, qui est une grosse défaillance dans le royaume de Dieu. Nous oublions certaines choses, nous ne comprenons pas certaines choses. Nous, on voudrait des explications, mais Dieu ne défaille jamais. Écoutez bien, mes frères et sœurs, Dieu sait ce qu'il va faire. Dieu n'est jamais pris au dépourvu. Quand je pensais ce matin, parce que je pensais à beaucoup de choses, quand Jonas a été balancé par-dessus bord, vous vous rappelez, Jonas qui n'a pas trouvé mieux que de dire, c'est moi qui attire sur vous cette tempête, jetez-moi par-dessus bord. Vous voyez un petit peu, Dieu n'a pas dit, ah, comment je vais faire? Comment je vais faire? Comment je vais faire? Ah, il y a un gros poisson, mais il a 300 kilomètres. Ah, comment je vais faire? Ça vous fait rire. Mais est-ce que Dieu avait prévu que le poisson il soit là juste au bon moment? Je vous donne cet exemple, ça vous fait sourire, je sais, je l'ai fait volontairement en même temps. Mais mes frères et sœurs, c'est pour vous dire que Dieu a tout prévu. Il a tout préparé. Mais il faut. D'un côté, c'est bien de réentendre que Dieu est capable de nous dire « ne pleure pas ». Comme c'est très bien si quelqu'un est dans le péché d'entendre « mais tu peux pleurer sur tes péchés ». Parce que c'est une preuve d'amour, plutôt que de vous laisser enfermer dans votre culpabilité. Mais Dieu peut dire à quelqu'un ce matin, pleure, tu peux pleurer. À la place de t'étourdir et de rire, tu peux pleurer sur tes péchés. Mais je sais aussi que si vous vivez dans l'obéissance, si vous vivez dans l'obéissance à la parole de Dieu, Dieu va vous dire, arrête de pleurer. Parce que je sais ce que je dois faire. Dieu sait ce qu'il va faire. Est-ce que vous croyez que Dieu sait ce qu'il doit faire à Sainte-Agne ? Pour l'avancement du royaume de Dieu. Oui, mais ce n'est pas parce que Dieu sait ce qu'il va faire que sa souveraineté nous dispense d'obéir. Vous avez vu un petit peu, parce qu'il faut comprendre le texte. Vous avez vu d'un côté, Dieu dit, bon, voilà, j'ai déjà choisi l'homme qui va remplacer Saül, mais qu'est-ce qu'il lui demande? Remplis ta corne d'huile et va. La souveraineté de Dieu ne nous dispense pas d'obéir. Et c'est ça souvent que les chrétiens... oublie. D'un côté, des fois on me pose la différence, l'autre jour on me posait la question, mais quelle est une des grandes différences entre l'église protestante et l'église évangélique? Bon, par exemple, c'est vrai qu'au niveau de la doctrine, il n'y a pas beaucoup de différences. Mais par exemple, l'Église protestante, l'Église réformée de France, enseigne que Dieu est souverain. Est-ce que Dieu est souverain ? Mais, comme Dieu est souverain, il sait qui sera sauvé et qui sera perdu, donc il n'y a pas besoin de faire de l'évangélisation, puisque de toute façon, Dieu sait qui sera sauvé et qui sera perdu. Nous, les pentecôtistes, nous enseignons que Dieu est souverain et que Dieu sait qui sera sauvé et qui sera perdu, mais quand même, toute la Bible nous enseigne à faire de l'évangélisation. Oui ou non ? Est-ce que c'est biblique d'aller évangéliser, de distribuer des Bibles ? Vous voyez, ça, c'est une différence. Alors, il y a des différences que je vous les explique un petit peu pour que vous compreniez un petit peu ce qui se passe parfois dans certains mouvements. Mais une chose est sûre, Dieu sait ce qu'il va faire, mais pour que ces choses se fassent, il est nécessaire que nous arrêtions de pleurer, parce qu'il y a des gens qui pleurent, il y a des gens qui sont tout le temps dans la tristesse, et j'en ai marre, et je ne comprends pas. Eh bien, le diable, il doit se régaler. Parce que les gens, ils tournent en rond, ils tournent en rond, ils tournent en rond. Vous les voyez 10 ans après, ils sont tout le temps en train de tourner en rond. Une fois c'est ci, une fois c'est ça, c'est ça. Vous allez me dire, les choses peuvent changer juste par une parole comme celle-ci. Quand cesseras-tu de pleurer ? Eh bien, oui. Parce que si Dieu, ce matin, il m'a parlé à moi cette semaine au travers de ça, j'étais pas en dépression, loin de là, mais j'ai compris également qu'il fallait faire attention à ne pas se faire piéger par les problèmes. Si le Seigneur dit, malgré le fait qu'il soit souverain, arrête de pleurer, c'est quand même sérieux cette affaire. Il dit, oh, c'est pas, c'est un détail. Mais enfin, la bénédiction qui va suivre s'est manifestée parce que Samuel a pris au sérieux cette parole, arrête de pleurer, maintenant tu remplis ta corne d'huile et tu t'en vas. Et je vais t'envoyer chez Isaïe, le Bethlehemite, etc. Mes frères et sœurs, il y a des moments dans la vie où il faut être sérieux avec des paroles toutes simples. Quand cesseras-tu de pleurer ? Remplis ta corne d'huile. Pour nous les chrétiens, ça signifie que nous devons vraiment chercher la vie de l'esprit. Est-ce que c'est important pour vous la vie de l'esprit ? Avoir cette abondance de grâce. Le baptême du Saint-Esprit, c'est le baptême de la présence de Dieu. C'est je suis immergé dans la présence de Dieu et la présence de Dieu fait que je vais recevoir, à faire mon tour, de pouvoir donner. Ce sont des choses importantes, mes frères et sœurs. Nous, on ne sait pas comment Dieu va faire, mais ça commence peut-être par une parole. Arrête de pleurer. Arrête de te tourmenter, arrête de te plaindre, ça ne changera rien. Il y a des gens, ils sont pris par la mélancolie du monde, par l'ambiance du monde, et il y en a marre, et encore il va falloir payer, et encore on nous augmente les impôts, et tatati, et tatata. Bon, c'est normal d'écouter, c'est normal on n'est pas insensible non plus. Mais j'aimerais quand même vous rappeler que c'est Dieu qui bénit. Vous le savez que c'est Dieu qui bénit ? Et que même si vous aviez un petit salaire, ce qui peut arriver, Dieu peut vous étonner. Est-ce que vous le savez ? Que Dieu peut donner au-delà d'un salaire. Je pense que plusieurs parmi nous l'avons expérimenté. C'est Dieu qui bénit. Samuel pleure. Tout homme de Dieu qu'il est, parce que ça indique qu'à ce moment-là, il a les yeux fixés sur un homme qui est disqualifié et qu'il n'a pas les yeux fixés sur Dieu. Et que Dieu sait ce qu'il va faire. Alors peut-être que vous vous tourmentez parce que vous avez tout le temps les yeux fixés sur la télé peut-être, sur les infos. Moi j'ai connu des chrétiens, monsieur, que vous avez vu cette semaine, que c'est grave. Bien sûr, mais je veux dire, ils sont tout le temps là, obsédés par les informations, et vous vous rendez compte de ce qui s'est passé. Écoutez, bon, moi je pense qu'il faut s'informer. Mais mes frères et sœurs, Dieu règne au siècle des siècles sur toutes choses. Et je voudrais, mes frères et sœurs, que nous prenions ces paroles au sérieux. Quelqu'un pourrait dire, mais monsieur, c'est très sommaire, cette exhortation, arrête de pleurer. Bon, monsieur Gou, il ne s'est pas beaucoup foulé pour cette prédication. Écoutez-moi, Dieu sait ce qu'il a à nous dire. Et si ce matin, dans sa bonté, Dieu te dit ou me dit, arrête de pleurer, prenez ces choses au sérieux. Si vous êtes tout le temps en train de vous plaindre, en train de vous lamenter, l'œuvre de Dieu ne se fera pas. Et nous passerons à côté où nous allons perdre beaucoup de temps. Samuel entend cette parole, remplis ta corne d'huile et va. Bon, bien sûr qu'il est un petit peu dans la crainte, puisque vous avez vu ce qu'il dit. Au verset 2, Samuel dit, comment irai-je ? Samuel l'apprendra et il me tuera. Et l'Éternel, tu amèneras avec toi une génisse, et tu diras, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Tu inviteras Isaïe au sacrifice, je te ferai connaître ce que tu dois faire, et tu oindras pour moi celui que je te dirai. Et le verset 4, voyez, d'un côté, la souveraineté de Dieu, et maintenant, le verset 4, la responsabilité de l'homme. Samuel fit ce que l'Éternel avait dit. Et il alla à Bethléem. Il n'a pas dit, quand ça ira mieux, je vais réfléchir. Écoutez-moi, quand Dieu nous demande quelque chose, n'attendons pas. Vous connaissez tous ce verset. Aujourd'hui, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Moi, je sais qu'il y a des gens qui ont été appelés au ministère. Ils ont dit, on verra, j'attends ceci, j'attends cela, j'attends d'être à la retraite, comme ça, j'ai une ma sécurité, tatati, tatata. En fait. Et le résultat, c'est que ça tenait debout. Mais ça ne tenait pas compte du fait qu'on peut endurcir son cœur quand Dieu nous parle, si on n'obéit pas. Samuel, voyez, d'un côté, la souveraineté de Dieu, Dieu avait tout prévu. Bien longtemps à l'avance, Dieu avait tout prévu parce qu'il savait ce qui arriverait. Mais de notre côté, la responsabilité d'un homme qui a le souci au-delà de ses pleurs, parce qu'il y a des gens, oui, je comprenais, mais en attendant ceci, en attendant. Écoutez, je crois que quand même, quand on a 3 mois de conversion, bon, je comprends, mais peut-être que vous avez 15 ans de conversion, 10 ans de conversion, que vous êtes tout le temps en train de vous plaindre, je pense qu'il faut arrêter. Il faut arrêter et dire, Seigneur, mais moi aussi, tu me parles ce matin. Il faut que je remplisse ma corne d'huile, que ma vie soit remplie de ton esprit, afin que je puisse amener la bénédiction sur les autres. Dieu est souverain. Regardez, Dieu a choisi David, mais qui Dieu va utiliser pour former David? Qui c'est? Qui? Saül. Vous savez, les mauvais chefs. Bien, Dieu peut l'utiliser pour vous former. Tu comprends, Michael? Mais est-ce que c'est vrai? Est-ce que Dieu peut utiliser un Saül pour faire un homme de Dieu? Peut-être qu'il y a un Saül au-dessus de vous. Mais peut-être qu'il y a un Saül, c'est-à-dire un patron difficile au-dessus de vous. Est-ce que ça peut arriver? Ben oui. Est-ce que vous acceptez? Ça n'a pas duré 3 mois, ça a duré des années que Saül a été le leadership, comme on dit aujourd'hui, le pasteur formateur de David. Et même quand il aurait pu s'en passer, il est resté sous son autorité et il est vraiment devenu un homme selon le cœur de Dieu. Voyez comment Dieu est souverain. Et on pourrait prendre plein d'exemples pour nous montrer que Dieu sait ce qu'il fait et il peut utiliser quelqu'un qui est au-dessus de vous, même qui n'est pas marrant, pour vous former. Peut-être que votre chef est difficile, votre chef de bureau, je ne sais pas. Est-ce que quelqu'un est difficile au-dessus de vous? Michael est ton responsable, ça va? Ah, tu ne m'as pas dit pareil l'autre jour. Hein? Mais mes frères et sœurs, il faut accepter cela. C'est vrai que Dieu peut mettre quelqu'un de bon, mais Dieu peut mettre quelqu'un de méchant. Et tout ça, Dieu va l'utiliser dans sa souveraineté. C'est important. Et ça peut faire partie de son plan. Vous avez vu ce verset? Samuel fit ce que l'Éternel avait dit. Ça signifie pour nous les chrétiens, obéissons. Obéissons à ce que le Seigneur est en train de nous montrer. Peut-être que Dieu vous a montré quelque chose il y a 8 mois, il y a 6 mois, il y a 3 semaines. Peut-être ce matin, Dieu va vous montrer quelque chose de simple. Qui peut se permettre de dire, ah ben non, c'est trop simple, ça. Puis moi je pleure, mais tu sais pas pourquoi je pleure. Oui, peut-être que moi j'aurais pas la réponse. Mais quand même, je crois que ça vaut la peine de dire, Seigneur, je vais arrêter de pleurer. Parce que je vais vous dire, si vous devez pleurer chaque fois qu'il y a quelque chose de contrariant, je pense pouvoir vous prophétiser que vous allez pleurer jusqu'à la fin. C'est vrai ou c'est pas vrai? Parce qu'il y a de quoi pleurer, croyez-moi, avec les choses qui vont en empirant. Je crois qu'il faut savoir dire, oui, ça va mal, les choses empirent, l'apostasie rentre dans les églises, c'est quelque chose de moi qui me brise le cœur, mais ça fait rien, on va remplir nos vies de son huile, l'église va devenir une maison de prière. Est-ce que c'est important pour vous que l'église soit une maison de prière? Et je m'adresse à ceux qui peut-être n'ont pas de véhicule, qui aimeraient venir le mardi soir. Signalez-le nous, afin que nous ayons la joie de vous accueillir, pour que vous puissiez venir prier avec nous. Alors, un autre enseignement, c'est que bon, Esaïe fait ce qu'il a à faire, malgré la crainte. C'est pas parce qu'on a de la crainte qu'on ne peut pas obéir. Il a peur un peu, parce que Saül, quelqu'un de mauvais, il est devenu mauvais. Il était bien, Saül. Vous voyez, il l'a pas veillé. Quand vous regardez Saül au début, c'est quelqu'un de... C'était le meilleur, sûrement, à l'époque. Et c'est un homme qui a fini comme vraiment un psychopathe total. Il a fait tuer des pasteurs, 85, je crois, sacrificateurs, avec toute leur famille. C'est un malade. Vous voyez, un homme de Dieu peut devenir un véritable malade parce qu'il n'a pas obéi au Seigneur. Comment Saül a fini? Alors, il arrive dans la maison d'Isaïe. Vous y êtes avec moi, regardez. Alors, on va lire à partir du verset 4. Samuel fit ce que l'Éternel avait dit. Il alla à Bethléem. Les anciens de la ville accoururent, effrayés, au-devant de lui, et dirent, « Ton arrivée annonce-t-elle quelque chose d'heureux ?» Il répondit, oui, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel, sanctifiez-vous et venez avec moi au sacrifice. Il fit aussi sanctifier Isaïe et ses fils et il les invita au sacrifice. Lorsqu'ils entrèrent, il se dit en voyant Eliab. Il se dit, moi j'aime beaucoup cette parole, il se dit, ah, c'était quelqu'un Samuel, hein? Mais voyez comme on est tous pareils. Il se dit en voyant Eliab, certainement, loin de l'Éternel est ici, devant lui. Voilà, qu'est-ce que ça veut dire? Bon, il a vu Eliab, qui était un grand gaillard. Il a dit, bon, mais c'est un gars comme ça qu'il nous faut. De toute façon, pour remplacer Saül, il faut un costaud, il faut un guerrier, il faut quelqu'un qui soit capable de mener la guerre. Il se dit. Et ça s'est passé dans sa tête, dans son cœur. Ça nous prouve une fois de plus que Dieu regarde nos cœurs. Ça vous rassure ou ça vous inquiète? Et il s'est dit. Il a dit à personne. Il s'est dit. C'est le gars qu'il faut. Nous, on a tel critère. Oh, ce gars, il joue bien de la guitare. Oh, ça ferait un bon leader de jeunesse. Voyez, on est comme ça. On est tout le temps dans l'apparence. Oh, ce gars, il chante bien. Il faut qu'il chante. Bien sûr que c'est bien. C'est mieux que meneur de chien chante bien. Ça serait mieux. Mais franchement, c'est pas ça. C'est pas ça le plus important. Nous, on est dans l'apparence. Et c'est bien que ça se soit passé. Samuel ne savait pas ce qui se passait dans le cœur d'Eliab. Quand vous voyez la suite, vous voyez que le cœur de cet homme était plein d'orgueil. Et je voudrais rassurer les parents. Parce que vous voyez, Isaïe a éduqué ses enfants. Quand vous voyez David, qui était un homme humble, et son frère aîné, donc qui était un homme orgueilleux. Bon, pourtant, je pense qu'ils ont dû avoir la même éducation. C'est pas parce qu'il y a des gens qui disent « Oui, si tu éduques bien tes enfants, ils tourneront tous bien. » Moi, je suis pas d'accord. Parce qu'en tous les cas, c'est pas... quand vous voyez les fils de Samuel, tiens, prenez les fils de Samuel. Samuel, c'était quand même quelqu'un, et vous allez voir comment ses fils ont tourné. C'est pas parce que vous éduquez bien vos enfants qu'ils vont choisir le bien. Je dis ça parce qu'il y a des parents qui sont tout le temps en train de pleurer et de se culpabiliser parce que leurs enfants ont mal tourné. Croyez-moi, Eliab, c'était un orgueilleux. C'est lui qui a traité David d'orgueilleux, vous lirez la suite. Mais c'est important que nous le sachions, ça. Parce que je crois que quand on est parent, on fait de son mieux. Et ce n'est pas parce qu'un enfant tourne mal qu'on l'a mal éduqué. Or, Eliab avait de l'orgueil dans son cœur. Il ne voyait pas son caractère. Quand on voit quelqu'un, on ne sait pas son caractère. Vous connaissez le caractère des autres? Est-ce que vous connaissez le caractère? Sophie, est-ce que vous connaissez le caractère du monsieur qui est à côté de vous? Un petit peu? Ouais. Mais est-ce qu'on connaît bien le caractère de quelqu'un. Bien sûr, si on vit avec lui, en principe, on finit par connaître son caractère. Mais, voyez, Samuel, malgré le fait que ce soit un homme de Dieu, eh bien, nous prouve que nous avons tendance, c'est pas un péché grossier, mais c'est une évidence, nous avons tendance, malgré notre spiritualité, à regarder à l'apparence. On regarde à l'apparence des gens. Et ça, c'est un travers qu'il faut vraiment, sur lequel il faut veiller. Nous, on regarde l'apparence. Dieu, lui, voit les dispositions du cœur. Il n'y a que Dieu qui a ce pouvoir. Même le diable ne l'a pas. J'en profite pour dire la quantité de gens qui s'imaginent que le diable connaît vos pensées. Ce n'est pas vrai. Il peut influencer vos pensées, mais moi, ça me peine quand je vois des chrétiens qui comparent presque la puissance de Dieu à la puissance du diable. Mais c'est une abomination. Le diable ne connaît pas vos pensées. Ce n'est pas vrai. Si le diable connaissait les pensées, je peux vous dire qu'il ne se serait pas trompé dans l'affaire de Job et dans d'autres affaires d'ailleurs. Vous savez, quand il a dit à Dieu, enlève-lui la bénédiction et tu verras, je suis sûr qu'il te maudit. Oui, mais parce que il n'y a que Dieu qui connaît les pensées. Et là, mes frères et sœurs, et je sais surtout, et ça c'est pas mépris, beaucoup de frères et sœurs qui viennent d'Afrique sont souvent pétris par ça, on leur a enseigné, ce n'est pas vrai. Il n'y a que Dieu qui connaît votre cœur. Vous entendez? Il n'y a que Dieu qui connaît votre cœur. Je peux vous le prouver, là ça n'est, je veux pas vous prouver, mais je vous assure mes frères et sœurs, que le diable, il peut influencer vos pensées, mais il ne connaît pas votre cœur. Ce n'est pas vrai. Il n'y a que Dieu qui connaît vraiment votre cœur. Dieu avait déjà dit, j'ai choisi mon homme, je le désignerai. Et vous avez vu comment Dieu savait, il savait exactement comment se comportait David lorsqu'il travaillait tout seul. Là aussi, maintenant, on attaque le dernier point, à savoir l'importance de la fidélité. Je ne sais pas si vous avez vu, Isaïe avait convoqué, entre guillemets, tous ses fils. Le grand prophète Samuel, c'était quand même la personne la plus importante du pays, après le roi, vient dans sa maison, il convoque tous ses fils, tous, presque tous. Hein? Je ne sais pas si vous vous rendez compte de l'ambiance qu'il devait y avoir dans la maison. Vous rendez compte? Imaginez-vous, vous recevez quelqu'un de très, 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 très important, vous avez 6 enfants, vous en faites venir 5, le 6e, bon, c'est pour la peine, de toute façon, lui, il n'y a rien, et ça va faire des histoires. Enfin, pourquoi on mépriserait le dernier? Vous savez, ça, l'ambiance ne va pas être joyeuse. Hein. Alors, on va lire la suite, parce que c'est important, mes frères et sœurs, pour comprendre l'importance de la souveraineté de Dieu et l'importance d'obéir. L'Éternel dit à Samuel, « Ne prends pas garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. » Et quand Dieu rejette quelqu'un, en principe, c'est clair, c'est à cause de l'orgueil. Dieu ne rejette pas les gens comme ça. Quand Dieu dit qu'il a rejeté quelqu'un, c'est toujours à cause de l'orgueil. Dieu résiste aux orgueilleux. Avec un orgueilleux, Dieu ne peut rien faire. Dieu peut utiliser Pierre, vous voyez, malgré le reniement c'était grave. Dieu a utilisé Jonas, malgré sa désobéissance. Dieu a utilisé Abraham, malgré son mensonge, on pourrait faire la liste. Mais Dieu n'a jamais utilisé un orgueilleux, jamais. Dieu résiste aux orgueilleux. Ça, c'est pas compliqué. C'est pour ça que c'est une affaire assez grave. Quand Dieu dit « je l'ai rejeté », c'est pas bon signe. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'Éternel, l'homme regarde à ceux qui frappent les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Isaïe appela Abinadab et le fit passer devant Samuel. Et Samuel dit « l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci ». Isaïe fit passer Shama et Samuel dit « l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci ». Isaïe fit passer 7 de ses fils devant Samuel et Samuel dit à Isaïe « l'Éternel n'a choisi aucun d'eux ». Puis Samuel dit à Isaïe, sont ceux-là tous tes fils? Et il répondit, ah, il reste encore le plus jeune. Moi, j'aurais honte, je vous le dis. Il reste le plus jeune, mais il fait paître les brebis. Alors Samuel dit à Isaïe, envoie le chercher, car nous ne nous placerons point qu'il ne soit venu ici. Isaïe l'envoya chercher, or il était blond, avec de beaux yeux et une belle figure. L'Éternel dit à Samuel, lève-toi, oint-le, car c'est lui. Samuel prit la couronne d'huile, éloignit au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David. Amen. Vous avez vu en quelques minutes comment Dieu peut nous changer? Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Ce que devait vivre David. David a dû vivre des temps difficiles. Avec les frères, c'est sûr, ça ne devait pas gazer beaucoup. Vu ce qui se passe, enfin, il faut être. Si vous connaissez la Bible, il est certain que compte tenu de ce qui s'est passé, même le fait qu'il soit blond, ça veut dire beaucoup de choses. Enfin, je ne vais pas rentrer dans les détails. Oui, si vous avez besoin d'explications, venez, je vous les donnerai. Mais mes frères et sœurs, en quelques minutes, Dieu va prendre un jeune berger et le préparer pour en faire un roi. David n'a pas couru de suite chez un imprimeur faire des cartes de visite. Ancien berger, futur roi. Voyez, alors on pourrait faire, moi je me suis fait des films avec cette histoire comme vous ne pouvez pas vous imaginer. Mais tout ça pour vous dire que David est resté fidèle. Il est retourné à son troupeau, il est resté fidèle à Dieu. Il a attendu le moment de Dieu. Mes frères et sœurs, la fidélité, je continue à faire ce qu'on m'a demandé de faire. Je continue à accomplir ma petite tâche. David devait garder les moutons, il a gardé les moutons. Vous lirez la suite, comment Dieu va préparer ce garçon. Il ne s'est pas affolé par cette onction qui venait de tomber sur lui. Il s'est appliqué à sa responsabilité. Mes frères et sœurs, je ne sais pas ce que Dieu vous demande. Je pense, j'espère que je sais moi ce que Dieu me demande de faire. Et il vaut mieux pour vous que je sache ce que je dois faire. Mais ce n'est pas valable pour les pasteurs, ça. Chacun d'entre nous, nous devrions être fidèles dans les petites choses que nous avons à faire. Je ne sais pas pourquoi vous êtes dans l'église ce matin. Je serais peut-être surpris si je savais tout. Et je ne veux pas savoir, ça, c'est pas de mon ressort. Mais pourquoi vous êtes ici ce matin? C'est que, parce que, comme ça s'est passé pour Samuel, c'est la même chose. C'est-à-dire que Dieu regarde dans votre cœur en ce moment. Est-ce que Dieu voit votre cœur? Oui. Ça peut être que ça vous dépasse, mais moi je peux vous dire que Dieu voit ce qui se passe dans votre cœur et dans le mien. Donc la question, je la pose, mais il se peut aussi que le Saint-Esprit la pose au travers de mon ministère. Qu'est-ce que vous faites ce matin dans la maison du Seigneur? Est-ce que vous êtes là parce que vous dites, en venant le dimanche, je me mets Dieu de mon côté, c'est bon, Dieu doit être avec moi, point. C'est pas parce que vous venez à l'église que Dieu est avec vous. Mais la question que vous pouvez vous poser, celle-ci, est-ce que je fais ce que Dieu me demande? Est-ce que je suis fidèle dans les petites choses? Peut-être que Dieu a une promesse pour moi, elle va s'accomplir. Là, ça a pris encore quelques années, parce qu'avant que David devienne roi, laissez-moi vous dire que ça n'a pas été facile. La formation pour être roi, laissez-moi vous dire que c'était une drôle de formation. Ça a pris des années. Il y a peut-être quelque chose que Dieu va accomplir dans 6 mois, dans 5 ans, dans 10 ans. Est-ce que Dieu sait? Mais est-ce que vous, vous voulez être fidèle dans les petites choses. Quelle est la chose que Dieu vous demande de faire? Moi, vous savez, l'AVC, ça m'a fait beaucoup de bien. Je le suis sérieux parce que ça m'a amené à m'occuper que de ce que Dieu me demande. Et parce que, vous voyez, on a de la crainte, on a de la faiblesse, vous comme moi, et des fois, on veut faire plaisir à tout le monde, et moi, je courais du matin 5h30 au soir 11h, et paf, Dieu m'a arrêté. Parce que je ne pense pas que Dieu nous demande de courir. Ce matin, je priais, j'avais ce verset qui m'est venu à l'esprit, quand Paul dit « Je fais une chose ». Et je crois que chacun d'entre nous, nous devrions commencer, au-delà de comprendre la souveraineté de Dieu, parce que ça, je pense que je me suis appliqué à vous expliquer la souveraineté de Dieu, je pense que la deuxième partie du message nous amène à dire, mais oui, l'œuvre de Dieu s'est faite parce qu'un homme a arrêté de pleurer et qu'il a commencé à obéir. Et que notre homme va être préparé par Dieu, parce que lui aussi, eh bien, malgré l'onction dont Dieu lui a parlé, eh bien, il est retourné à ses brebis et il a été fidèle. Alors, est-ce que vous voulez être fidèle? Il y a un proverbe qui dit « Beaucoup de gens proclament leur bonté, mais un homme fidèle, qui le trouvera ?» Alors on peut proclamer sa bonté. Chacun d'entre nous, pouvons mettre plein sur la tartine et dire « Voilà, moi je fais ceci, moi je fais cela, moi j'ai aidé un tel, j'ai donné de l'argent. » Bon, c'est bien, c'est très bien. Mais Dieu dit « Mais un homme fidèle, qui le trouvera ?» Et je voudrais, mes frères et sœurs, que nous soyons sérieux. Bien sûr que, je vous assure, moi je suis heureux d'être avec vous. Il n'y a que Dieu qui sait combien j'ai de la joie d'être votre pasteur. Je suis sérieux quand je vois les conseils d'administration qu'on a, les cultes que l'on a. Je me suis régalé, moi, ce matin, parce que je suis venu en tant que chrétien. Même si je dois prêcher, je vous ouvre mon cœur. Je suis venu aussi en tant que chrétien. Mais au-delà de cette bénédiction, de cette joie qui est la nôtre, est-ce que Dieu va trouver quelqu'un de fidèle? Et peut-être c'est ça. Mais le mardi, je t'attends à la réunion de prière. Est-ce que ça peut venir de Dieu, ça? Ou est-ce que c'est moi qui veux à tout prix que l'Église soit remplie le jour de la réunion de prière? Moi, je ne crois pas. Je crois qu'il y a un combat spirituel. Et que c'est bien de prier les uns pour les autres. Je le crois. Après, ma responsabilité s'arrête là. Mais un homme fidèle, ce que Dieu demande au dispensateur, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Et je pourrais vous prendre tous les versets qui me viennent à l'esprit sur la fidélité, mais c'est quand même quelque chose. Parce que quand on va passer devant Dieu, j'espère que tous nous entendrons entre bons et fidèles serviteurs. Vous n'avez pas envie d'entendre ça quand vous passerez devant Dieu? Moi, je vous assure, moi, c'est la chose la plus importante. Moi, que je meure dans 2 minutes, dans 2 mois, dans 2 ans, dans 20 ans, mais ça m'est égal complètement. Mais que j'entende entre bons et fidèles serviteurs. Parce que je crois qu'on peut être fidèle. Et si Dieu te dit ce matin, arrête de pleurer, arrête de te plaindre, arrête de gémir parce que tu as 30 euros de moins ou parce que tu as 300 euros de moins. Écoutez, Dieu peut vous donner au-delà de ce que vous pensez. Vous le croyez que Dieu peut vous donner? Moi, je vois des gens qui sont traumatisés par des petits trucs. Mes frères et sœurs, Dieu est-il le Dieu tout-puissant? Oui ou non? Si Dieu est le Dieu tout-puissant, laissez-moi vous dire qu'il a tout préparé pour l'Église, pour le corps de Christ à Toulouse. Il a tout préparé. Il attend des hommes et des femmes qui vont dire, eh bien voilà, je vais arrêter de pleurer. Bon, si je pleure sur un péché, eh bien, c'est très bien. C'est très bien. Au moins, ça prouve que vous êtes sensible lorsque vous commettez un péché. Moi, j'ai vu de ces trucs en Polynésie, je vous assure, ça m'a fait frémir vraiment. Frémir de voir comment on peut s'endurcir. Mais si vous pleurez à cause d'un péché, eh bien c'est bien. Mais mes frères et sœurs, si vous pleurez à cause des circonstances, je vous le dis, arrêtez de pleurer, remplissez votre vie d'huile, demandez à Dieu, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Parlez-en à votre conjoint, parlez-en à votre pasteur, parlez-en à un ami. Mais dites, qu'est-ce que je dois faire quand je vais passer devant Dieu, que je ne ressemble pas à cet homme qui est comparé à un figuier stérile dont Dieu a dit, pourquoi occupe-t-il inutilement la terre? Vous aimeriez que quand vous passerez devant Dieu, Dieu vous dise, eh bien écoute, tu ne sais pas? T'as occupé la terre inutilement. Vous aimeriez entendre ça? Mais il y a des gens qui l'entendront. Je ne sais pas comment Dieu fera. Dieu fera avec une telle tendresse. Mais la sévérité de Dieu, elle va se présenter. Et moi, je ne voudrais pas que dans l'église où Dieu m'a placé comme pasteur, alors c'est peut-être de l'orgueil, j'en sais rien, mais je ne voudrais pas que beaucoup de gens entendent que t'as été inutile. T'as entendu des milliers de prédications et t'as été un vase, t'as été un arbre inutile. Pourquoi? Parce que quand Dieu nous a parlé avec des choses toutes simples, on n'a pas pris ça à cœur. Alors, mes frères et sœurs, n'oubliez pas une chose, c'est que Dieu a dit, j'aurai les yeux sur les fidèles du pays. Alléluia. J'aurai les yeux sur les fidèles du pays. Quelqu'un peut me dire, mais vous avez dit tout à l'heure que Dieu regardait tout le monde. Oui, Dieu voit tous les hommes. Mais quand Dieu dit qu'il a ses regards sur les fidèles, vous comprenez bien qu'il y a une attention particulière sur ceux qui obéissent et sur ceux qui marchent avec lui. Donc j'aimerais qu'on remercie le Seigneur, qu'on le prie, qu'on lui dise, mais Seigneur, c'est vrai, il faut que j'arrête de pleurer. Il faut que j'arrête. Il faut que vraiment j'arrête de me plaindre et de gémir. Qu'est-ce que tu me demandes? Et je vous assure qu'en lisant la Bible, ce n'est pas possible, ou en passant la tondeuse. Mais je peux vous dire que le Seigneur, il vous parlera.